bienvenue dans la deuxième partie de Onde Noire. Et d'abord, une toute petite nouvelle, c'est à quelques kilomètres d'ici, pour tout dire à 150, mais ça peut intéresser certains. Le samedi 20 juin à 18h30, 19h, oups, je me souviens plus très bien, c'est pas très grave. Donc, en début de soirée, à la médiathèque de Traits, l'association La Noiraude fait une intervention qui s'appelle Dévorons le polar et qui est une balade gastronomique et littéraire autour du polar méditerranéen. Ça se passe normalement dans les jardins, je dis normalement si il fait beau, dans les jardins de la médiathèque de Traits, petit village, charmant petit village provençal autour d'Aix-en-Provence. Voilà, et vous pouvez venir pour déguster à la fois des lectures de polar, mais aussi des petites spécialités provençales. Voilà, on va passer à nos coups de cœur. Donc, on va dire que je m'introduis moi-même, on va dire ça comme ça. Donc, je vais maintenant...
Chère Corinne, de quoi vas-tu nous parler maintenant donc?
Merci, voilà, ça y est, ça va mieux, ça le fait mieux, ça, comme ça. Donc, non, mais il n'y avait aucune connotation, hein, faut pas croire. Donc, je vais vous parler d'un livre de Craig Johnson, Little Bird. Je crois que c'est son premier livre traduit en France. C'est aux éditions Gallmeister. C'est un éditeur que l'on soutient beaucoup parce que tous les livres que l'on a découverts sont vraiment de très, très bons romans. C'est traduit, ce livre a été traduit par Sophie Aslanide. J'espère que ça se prononce comme ça. Et c'est un livre qui est assez cher, mais beau pavé, qui vaut vraiment le coup. 23,90€. Donc, je vous présente tout de suite...
Je précise que ce Craig Johnson n'a rien à voir avec le chanteur du même nom.
Ça tombe bien, parce que moi, je ne connais pas le chanteur du même nom. Donc,
oui, mais certains... Il y a beaucoup d'amateurs de musique sur Agora FM, donc je voulais le préciser, merci.
Merci de ta précision. Donc, je vous présente... Le personnage principal, qui est un héros récurrent et dont nous allons suivre dans les autres traductions les aventures sous la plume du non-chanteur Craig Johnson, donc c'est le shérif Walt Longmire. On va dire que c'est un vieil habitué de l'ordre dans une toute petite bourgade du comté d'Apsacora. Cherchez pas dans vos atlas, c'est un coin perdu, mais alors paumé, du Wyoming. On est en automne. Et les jours s'étirent vers l'hiver. On sent qu'il va bientôt faire très froid. Longmire est plutôt tranquille dans son bled paumé, a profité d'une tradition locale qui s'appelle le jour des crêpes, et d'autres traditions bon enfant, quand une bien méchante affaire, sinon on ne serait pas dans le polar, lui saute à la figure. En gros, le meurtre du jeune Cody Pritchard. Ce jeune homme avait été impliqué 2 ans plus tôt dans le viol d'une jeune indienne, Melissa, dont le surnom est Melissa Little Bird. Un acte de vengeance, tout le monde y pense, c'est sûr. Et le shérif veut, coûte que coûte, retrouver l'assassin avant qu'il ne s'en prenne aux jeunes complices du violeur défunt et qui ont été remis en liberté après un procès assez étonnant. Mais évidemment, c'est toujours pareil, hein, dans certains pays, violer une indienne, c'est pas comme violer une blanche. Donc, sur ce meurtre, Longmire ne va pas sauter sur son pur sang, on n'en est quand même pas là de l'écriture de l'Ouest, mais dans, je suppose, un pick-up, un Toyota Silver Bullet, afin de traquer le meurtrier. Et on peut dire, à ce moment-là de l'histoire, que c'est vraiment au risque de se perdre, aussi bien physiquement que mentalement. Alors, comme je l'ai dit au début, ce livre, c'est le premier d'une série consacrée à Walt Longmire, et on a franchement envie tout de suite de se plonger dans les suivants, sauf qu'ils ne sont pas encore traduits, tant ce personnage est d'emblée sympathique. C'est assez drôle parce qu'il me fait penser aussi à un autre personnage que j'ai découvert chez le même éditeur, qui est le personnage de Stoney Calhoun, pardon, dans un livre d'Edward J. Taplay qui s'appelait Casco Bay, qui s'appelle toujours d'ailleurs Casco Bay, et qui est un magnifique roman dont on vous avait parlé l'année dernière. Et ce personnage est vraiment... il est tout en empathie. Il est aussi bougon, ironique, irascible parfois. Très, très, très maladroit, mais très, très tendre avec les femmes qui l'entourent. Et il y en a quelques-unes. Il faut dire qu'il est veuf. Mais il a aussi une autre qualité qui le rend très intéressant, surtout dans l'histoire qui lui arrive. C'est qu'il semble indestructible au milieu de ce milieu hostile. On est dans les hautes plaines du Wyoming. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive en plein cœur de l'hiver. Il ne fait pas bon se balader dans les forêts enneigées, en pleine montagne, dans cette partie du monde. Il sera aidé beaucoup de ses amis Cheyennes, qui font corps avec cette nature, et puis qui connaissent si bien l'histoire de ce pays. allié à l'instinct, l'intelligence et la force de Longmaille pour espérer survivre. Je vous laisse découvrir s'il survit à la fin, mais comme j'ai annoncé qu'il y avait toute une série consacrée à ce shérif...
On peut le supposer.
Voilà. Et c'est pas là, en fait, vous n'avez pas envie de tourner les pages pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de talent dans ce livre, donc il n'y a pas besoin de savoir si le héros y meurt à la fin ou pas. Comme je disais, beaucoup de talent, en particulier pour raconter les histoires. Pas seulement l'histoire, le fil narrateur, pas seulement celle de Walt, mais aussi du reste, quoi. Des Indiens qui l'entourent. À commencer par son meilleur copain, Henry Standing Bear, son meilleur ami, ou encore le destin complètement tordu d'une nana qui va l'approcher très près, qui s'appelle Vonnie, et pour laquelle on va dire que le cœur un peu usé de Longmire bat la chamade. Il y a une multitude de personnages, et l'auteur nous régale tout le temps d'anecdotes sur chacun d'entre eux, parfois drôles, parfois tragiques, parfois pathétiques. Il y a les arbres, il y a ces forêts, ces montagnes. Et ça, c'est vraiment magnifié par la plume de Craig Johnson, qui arrive à se faire complètement lyrique et poétique pour nous décrire ces merveilleux espaces. L'écrivain arrive complètement à enchaîner action, description. Il se permet d'arrêter l'intrigue pour nous parler d'un vieil indien, d'un chien, d'un arbre, ou encore pour nous conter l'histoire de la carabine des morts. Et tout cela sans jamais nuire au souffle qui habite ce livre. Alors je vais citer pour terminer, pour conclure, j'espère que vous aurez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je vais citer Walt Longmire, que j'aimerais vraiment un jour connaître, ce type. Personne ne
Il
peut
n'existe
se...
pas, c'est un personnage.
Oh mince, alors zut, j'aimerais tellement rencontrer des mecs comme ça. Bon, enfin, personne ne peut se faire un gilet pare-balles contre les émotions, alors on ne peut que trimballer les éclats d'obus avec soi. Voilà, ça c'est une citation dans ce livre et je trouve que c'est une très belle phrase qui illustre ce beau personnage. Et vite, vite, la prochaine traduction.
Et si vous lisez le langage états-unien, vous pouvez aller sur son site, je sais plus exactement l'adresse, mais vous googlez Craig Johnson, vous regardez celui qui n'est pas musicien, donc, et il y a des choses très très intéressantes sur l'univers de l'auteur qui peuvent apporter un peu pour la lecture ou donner envie de lire ses livres.
Et nous revenons en France pour un fakir particulier.
En fait, un fakir, non, c'est Clou dont on va parler.
Oui, puisque le titre du livre...
Le roman s'appelle Les Clous du Fakir. L'auteur s'appelle Pierre Anotte. Le roman est paru aux éditions Fayard Noir en grand format et il vaut 16 euros. D'ailleurs, c'est Clous du Fakir. Il faudra attendre presque la fin du roman pour savoir ce qu'ils sont. On a beau être un rockeur de banlieue, quand on perd sa fille, on pleure. Et si c'est un monstre qui vous l'a prise, évidemment, le désir de vengeance va gonfler très très vite. Alors, si on se trouve en position d'un couteau affûté qu'on a acheté un jour par hasard, et qu'on apprend que le monstre en question sort de prison, la tentation de tuer va être grande. Bon, ça c'est pour résumer un peu le pitch du roman. Ce roman, en fait, est un prétexte à un retour en arrière sur la vie, sur ses mesquineries, sur la joie et la douleur d'être père. C'est donc le rockeur de banlieue en question qui raconte sur la vie de famille, la vie de la musique. Est-ce qu'on a fait le bon choix quand tout a foiré? La vie n'est pas, hélas, que le sexe, la drogue et le rock'n'roll, comme on le dit dans les chansons.
Hélas, hélas.
Et il y a un moment, on doit prendre des responsabilités. Et dans ce cas-là, la vengeance en fait-elle... partie et doit-elle en faire partie? C'est un roman, on a déjà parlé une fois de Pierre Anotte, c'est vraiment un auteur que j'aime bien. C'est un roman qui est quasiment expulsé, rageur, explosé, rythmé, mais qui est d'une très grande beauté intérieure, pourrait-on dire. Les mots arrivent, ils fusent, parfois comme une logorée, pour nous raconter l'histoire de ce mec, de ce musicien. De cet homme, en fait, et de sa vie.
Derrière un rocker, il y a un être humain, je te le rappelle, Jacques.
Certainement, mais dit comme ça, ça fait un peu idiot, et pourtant, c'est exactement l'histoire de ce livre. C'est un livre qui est plein d'humanité et de rock'n'roll, et on pressent que Pierre Anotte, qui est lui-même musicien, donc contrairement à Craig Johnson tout à l'heure, a pris dans sa propre expérience pour nous narrer certaines scènes de concert, de backstage, de producteurs foireux, de deals qui se font un peu à l'emporte-pièce. Vraiment, c'est un roman qui se lit très vite, mais qui reste très longtemps dans la tête, tellement c'est fort et dense dans l'écriture.
Voilà, c'est ce qui t'a particulièrement impressionné. D'ailleurs, dans le pareil, dans le premier dont on avait parlé, c'est vraiment un style très personnel, très rock, très...
Le premier dont j'avais parlé s'appelait Serial Loser, mais c'était, là, c'était plus un conte, une farce. Tandis que là,
on plonge dans le réel.
Là, on rit pas beaucoup, mais c'est vraiment très, très...
C'est un roman noir.
C'est un roman noir. De toute façon, publié dans la coalition Fire Noir, et c'est rarement des galéjades.
Alors, on n'a pas arrêté de parler de musique, malgré que ce soit une émission littéraire.
Donc on va en écouter un morceau qui a été choisi par notre invité de la première partie.
Je le rappelle, Jean-Hugues Opel.
Jean-Hugues Opel. Le morceau est un morceau d'un excellent groupe qui est toujours en tournée. Ils ne veulent pas s'arrêter. Status Quo, et le morceau est un de leurs tubes planétaires, n'est-ce pas ? Whatever You Want. Thank you.
Voilà, donc dernière partie d'émission. Et avant de laisser Jacques parler de notre dernier coup de cœur, je ne saurais résister à vous faire partager le dernier trait d'humour de notre technicien favori Philippe, qui, lorsque nous avons parlé de héros récurrents, nous a mis un petit mot. Un héros récurrent, c'est Ajax. Donc, de là à penser qu'il a un humour de chiotte, nous n'irons pas loin. Bon, voilà, Jacques, après cette... parenthèse...
Que l'on comprend au montage, bien évidemment.
Tout à fait, voilà. Un livre d'un Provençal, je crois.
Oui, d'un Provençal.
Marseillais, peut-on dire.
Marseillais, je pense, oui. Il s'appelle André Fortin. Le roman s'appelle Un été grec. Il est paru aux éditions Gigal ce printemps. Et il vaut 17 euros. André Fortin est juge d'instruction lui-même, à Aix-en-Provence en ce moment. Et donc, son héros est lui-même aussi juge d'instruction. Et ce héros, qui n'est jamais nommé, au moment de partir en vacances, il reçoit un dossier sur une mort suspecte, une noyade suicide, on ne sait pas trop, dans les Calanques de Marseille.
Avec un bout de béton au pied, comme d'habitude, non?
Non, mais en fait, ça ressemble plutôt à un suicide, mais bon, c'est difficile de se suicider en faisant de la plongée. C'est un peu ça qui le prête souci. Bon, il commence à faire les premiers interrogatoires, mais bon, comme il avait réservé ses vacances, il s'en va en Grèce. En fait, c'est sa femme qui avait réservé ses vacances pour passer l'été en famille, l'été au chaud. Bon, quand on habite Marseille, la Grèce. Bref.
Ça, mais c'est ce que femme veut.
Eh bien, c'est exactement ce que raconte un petit peu, de temps en temps, notre juge. Mais il ne peut, bien qu'il soit en vacances, s'empêcher de suivre les déroulements de l'enquête qu'il a confiée donc à un des policiers de son service. Vive le téléphone portable, dirait-on.
Oui, moi j'allais dire Internet, mais c'est un peu pareil.
Non, c'est en Grèce quand même, dans un petit patelin, donc il y a le téléphone portable passe, mais pas l'Internet. Mais bon, ça lui permet de rester au courant des informations et surtout d'infléchir les investigations de son enquêteur. D'une autre part, on suit dans ce roman, c'est un deuxième récit qui est alterné avec celui du juge. C'est les aventures d'un jeune homme, Apostolos, pas facile à dire, pardon.
C'est un grec, peut-être.
Apostolos est un grec, donc, dans les années 60. Un jeune grec, donc, brillant, un étudiant. En fait, au début, il est paysan, il va devenir étudiant. Et qui va être mêlé de très près, de trop près même, à la terrible prise de pouvoir par les colonels en avril 67. Donc, 40 ans après.
On plonge un peu dans l'histoire.
On plonge dans l'histoire. Et donc, les deux récits, des vacances et de l'enquête du juge, alternent avec le récit de la vie d'Apostolos, de ses amours.
Si tu n'arrives pas à le dire, tu peux dire le jeune Apollon.
Du jeune paysan grec.
Voilà, le pâtre grec.
J'avais écrit le jeune pâtre grec, mais malheureusement, voilà, il est paysan et pas pâtre.
Pas pâtre. Enchaînons, voilà. Jacques.
Le récit du juge est assez surprenant au début, assez étrange, car il est toujours très très distancié. Il se moque un humour un peu froid, il se moque gentiment de lui, de sa femme, de ses enfants, de ses relations avec eux pendant les vacances. Il se fiche de la gueule de ses gosses qu'il traite de feignasses, tout ça. Gentiment, bien sûr. Et au fur et à mesure de l'enquête, sa petite vie va être bouleversée. Pourtant, c'est un juge d'instruction, il en a vu quelques-unes. Et ce qu'il va apprendre sur ce meurtre qu'il y a eu dans les Calanques va lui faire se poser beaucoup de questions sur sa fonction de juge et sur la justice elle-même. Donc je rappelle que l'auteur est juge lui-même, donc est-ce que c'est sa vision à lui ou simplement un effet romanesque, ça sera à vous de le deviner. Mais ce qui est vraiment... aussi très très intéressant, ce qui fait la force de ce roman, c'est les aventures d'Apostolos, parce qu'elle nous rappelle une partie de l'histoire qui est finalement très proche, aussi bien dans le temps que dans la distance.
Régime des colonels,
la Grèce, c'est pas très loin, ça fait 40 ans, et c'est une histoire en fait qu'on a un petit peu oubliée, parce qu'en fait, nous, quelques temps après, on a eu notre petite révolution, enfin disons notre printemps un peu chaud de 68, qui nous a fait oublier que... le fascisme et la dictature étaient très près, à nos portes même. C'est vraiment un roman très prenant, avec beaucoup d'émotions. On a une très très grande empathie avec Apostolos, que sans
on pourrait même dire, pour faire un très bon jeu, une empathie.
Que bien sûr, on se doute que les deux récits étant mêlés, que Apostolos va être plus ou moins faire partie aussi de l'histoire du juge. On le sent venir.
Même c'est peut-être pas le, c'est pas grave, disons dans la suite du récit.
Non, on se demande pourquoi les deux histoires sont comme ça, donc on se doute bien qu'il va les faire se rencontrer, parce que sinon ça présenterait pas d'intérêt, il faudrait faire deux livres.
Donc on rappelle le titre, Un été grec.
Un été grec, aux éditions Gigal de André Fortin.
Et juste voilà. Avant de rendre l'antenne, je voudrais signaler un autre auteur qui est publié chez Seuil Policier, qui a subi le régime des colonels et qui parle de la Grèce d'aujourd'hui, c'est Petros Markaris. Aussi très très bon roman, je vous conseille en particulier Le Ché s'est suicidé. Voilà, il reste juste quelques secondes pour entendre un tout petit peu de notre générique. À bientôt.
Au revoir, à 15 jours.
Au revoir.